Bonjour à toutes et à tous. Selon Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 24 novembre 2024. En direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. Le Bénin assouplit les restrictions commerciales et de circulation avec le Niger. Les pays de l'AES veulent harmoniser leurs documents de voyage et d'identité afin de faciliter la libre circulation au sein de leur nouvelle déconfédération. Environ 250 projectiles ont été tirés dimanche vers Israël par le mouvement islamiste Hezbollah au Liban. La COP 29 s'est conclue hier dimanche à Bakou sur un accord obligeant les pays développés à donner 300 milliards de dollars par an d'ici 2035 aux pays en développement. Et dans notre partie magazine, un nouveau décret au Bénin précise les modalités d'obtention de la nationalité béninoise par reconnaissance pour les afro-descendants.
Historiquement, le Bénin rétablit une certaine équité, une certaine justice au profit de ses descendants d'Africains déportés. Elle rapporte au Bénin que ses afro-descendants ont à nouveau une attache réelle avec leur terre d'origine.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le Bénin a assoupli les restrictions commerciales et de circulation avec le Niger, permettant l'exportation de certains produits et la libre circulation des personnes entre les deux pays. Cette décision fait suite à des tensions diplomatiques liées au coup d'État au Niger en juillet 2023. Plus d'infos avec Abdourahman Dia.
Une note de la Direction générale des douanes du Bénin autorise la libre sortie de produits du pays à destination du Niger, en particulier le riz, les conserves et l'huile, et la libre circulation de personnes dans les deux sens, ainsi que l'entrée de produits en provenance de Niamey à Cotonou. Mais l'interdiction de sortie reste maintenue pour tous les produits vivriers cultivés au Bénin, tels que le maïs, le mil et le sorgho vers le Niger. Les autorités béninoises souhaitent que ces nouvelles directives s'accompagnent d'un renforcement de contrôle sur les embarcations et les véhicules afin de détecter et intercepter éventuellement tout transport d'armes, de munitions ou de matériel pouvant être utilisé par les groupes armés terroristes. Les relations entre les deux pays s'étaient tendues avec le coup d'État militaire qui avait renversé en juillet 2023 le président nigérien élu Mohamed Bazoum. Malgré la levée des sanctions de la CEDEAO imposées pendant plusieurs mois après le coup d'État, le Niger refuse de rouvrir sa frontière avec le Bénin, accusant son voisin d'abriter les bases militaires qui entraîneraient des terroristes, ce que Paris et Cotonou continuent de nier.
Le régime militaire du Niger a affirmé dimanche avoir demandé le remplacement de l'ambassadeur de l'Union européenne avant son rappel annoncé samedi par l'Union européenne pour consultation à Bruxelles, le pouvoir nigérien critiquant une aide aux victimes de récentes inondations. Les autorités nigériennes ont accusé vendredi l'Union européenne d'avoir redistribué de manière unilatérale à des ONG étrangères exerçant au Niger une aide humanitaire de 1,3 million d'euros de l'Union européenne, sans qu'elles en aient été informées au préalable. Elles ont déclaré faire un audit et appelé l'Union européenne à en faire autant. Le lendemain, l'Union européenne exprimait son profond désaccord après la remise en cause des modalités de gestion de l'aide et annoncé le rappel de son ambassadeur au Niger pour consultation à Bruxelles. Elle indiquait par ailleurs vouloir continuer à soutenir la population. Les pays de l'AES veulent harmoniser leurs documents de voyage et d'identité afin de faciliter la libre circulation des personnes et des biens au sein de leur nouvelle confédération. Lors d'une réunion des ministres chargés de la sécurité à Bamako, vendredi, les trois pays ont validé les spécifications de passeports et cartes d'identité unifiées. Le point avec Nani Talani.
La réunion avait pour objectif de valider les spécifications ethniques harmonisées des documents de voyage et d'identité, passeports et cartes nationales d'identité, afin de favoriser la libre circulation des personnes et des biens dans une dynamique d'intégration plus poussée, dit le communiqué signé par les ministres de la Sécurité Mouamadou Sana du Burkina Faso, Daoud Ali Mohamedine du Mali et Mohamed Toumba du Niger. Les ministres ont rappelé la nécessité de poser des actes concrets allant dans le sens de faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace AES, dit le communiqué. Les documents de voyage et d'identité harmonisés seront soumis au chef d'État pour leur approbation. Ces trois pays de l'Alliance des États du Sahel ont également signé jeudi à Niamey un accord visant à supprimer les frais d'itinérance ou roaming pour les communications téléphoniques entre leurs citoyens.
En RDC, 9 personnes sont mortes dans un glissement de terrain provoqué par des pluies diluviennes dans une cité agricole de l'est du pays, a-t-on appris samedi de sources locales. Située à environ 100 km au nord de Bukavu, la cité d'Onkoubi est construite au versant d'une colline verdoyante. Le bilan matériel est aussi considérable, a précisé Delphin Birimbi, président de la société civile de Kalehe. Dans plusieurs régions de la RDC, plus des pluies torrentielles entraînent des inondations et glissements de terrain qui font régulièrement des victimes. En avril, plus de 7000 ménages et une cinquantaine d'écoles avaient été affectés par des inondations à Uvira, sur la rive droite du lac Tanganyika, toujours dans le sud Kivu.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'écrivain sud-africain et militant anti-apartheid Breiten Bach est décédé dimanche à Paris à l'âge de 85 ans, a annoncé sa fille, poète, écrivain et peintre. Il avait quitté l'Afrique du Sud dans les années 1960 pour s'installer à Paris où il est devenu une voix majeure contre l'apartheid. Environ 250 projectiles ont été tirés dimanche vers Israël par le mouvement islamiste Hezbollah au Liban, a annoncé l'armée israélienne. Pour sa part, le Hezbollah affirme avoir détruit plusieurs chars israéliens dans le sud du Liban. Davantage avec John Lyndon.
Le Hezbollah affirme avoir détruit 5 chars Merkava près de la ville de Bayada dans le sud du Liban, ainsi qu'un autre char dans la région de Der Mimas, proche de la frontière israélo-libanaise. Ces destructions ont poussé un convoi militaire israélien de 30 véhicules à battre en retraite vers Tahir Rafah. L'agence d'information libanaise ANI a rapporté des combats violents et une accélération de l'opération terrestre israélienne à Qiam, près de la frontière. Le Hezbollah a aussi lancé 4 salves de roquettes contre les troupes israéliennes stationnées à l'est de Qiam, zone stratégique pour Israël. Parallèlement, une frappe israélienne a coupé la circulation et a perturbé la vie dans plusieurs localités du sud du Liban où des civils, dont une femme enceinte, ont été bloqués. Le Hezbollah a également mené sa première attaque aérienne en envoyant un essaim de drones de combat sur la base navale d'Ashdod dans le sud d'Israël. Au même moment, des frappes israéliennes ont visé la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, après un appel de l'armée israélienne à évacuer certaines zones. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, a appelé à un cessez-le-feu immédiat alors que le Hezbollah a intensifié ses tirs, envoyant des centaines de projectiles vers le territoire israélien.
La COP29 s'est conclue hier dimanche à Bakou, en Azerbaïdjan, sur un accord obligeant les pays développés à débloquer 300 milliards de dollars par an d'ici 2035 pour soutenir les pays en développement contre le changement climatique. Cependant, ceux-ci se disent déçus, estimant insuffisantes les mesures prises. Les détails avec Gaby Dorsil.
À l'issue de la conférence et après 3 nuits blanches de négociations intenses, les pays développés ont promis de dégager 300 milliards de dollars par an à partir de 2035 pour aider les pays en développement dans leur transition énergétique, leur adaptation au changement climatique et pour réduire leur dépendance au pétrole. Cependant, de nombreux pays bénéficiaires, notamment en Afrique, estiment que le montant prévu est dérisoire face à l'ampleur des défis climatiques. Ils réclamaient 1 300 milliards de dollars par an sous forme de subventions. Mais les pays occidentaux estiment que les fonds publics ne couvriront qu'une fraction de ce montant, misant sur le secteur privé et des contributions de nouveaux acteurs comme la Chine. Par ailleurs, un nouveau dispositif permet désormais aux pays riches de financer des projets en Afrique et en Asie plutôt que de réduire leurs propres émissions de gaz à effet de serre. Cette mesure est déjà critiquée comme une forme de greenwashing, détournant l'attention des réels efforts de réduction des émissions.
Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a adopté des décrets sur la régulation des filières coton et anacarde. L'un de ces règlements instaure un droit unique de sortie de 5% sur la noix de cajou brute contre un taux de prélèvement à l'exportation qui était fixé à 7%. D'autres dispositions portent sur la démarche pour obtenir l'autorisation d'exporter ces produits et sur le zonage agro-industriel dans la filière coton qui devrait permettre d'organiser 18 zones de production et de collecte autour des unités d'égrenage. Selon un rapport du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Altrata, l'Afrique compte 29 milliardaires ayant une fortune cumulée de 54 milliards de dollars. Cette richesse cumulée représente 0,4% des avoirs de l'ensemble des milliardaires dans le monde. Au niveau mondial, le nombre de milliardaires a augmenté de 4% l'an dernier pour atteindre 3 323 milliardaires et leur patrimoine a bondi de 9% pour atteindre 12 107 milliards de dollars. Le congrès mini international du Maroc se tiendra du 3 au 5 décembre à Marrakech sous l'égide de la Fédération minière des minéraux industriels du Maroc avec le soutien du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable. La FDIM conclura l'événement IMC Maroc par une visite exclusive du site d'une importante exploitation minière marocaine qui devrait permettre aux visiteurs d'obtenir des informations sur les pratiques opérationnelles et les stratégies de développement durable.
Place maintenant au sport avec Élisée Oumpatine. Bonjour Élisée.
Oui, bonjour Ozina et bonjour à tous.
Football pour commencer, et c'est le TP Mazembe qui a remporté la Ligue des champions féminines au Maroc.
Oui, les Congolaises entrent dans l'histoire en remportant le premier trophée de la Ligue des champions après avoir battu en finale le club Haute Asfar. 1-0 grâce à un pénalty de Malène Yav Kassage en début de match à la 8e minute de jeu. Le club de Lubumbashi a donc pris sa revanche sur les filles militaires de Rabat qui les avaient battues 3-1 en phase de poule pour succéder au palmarès les Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns. Un sacre historique que félicite Moïse Katumbi, président du Tout-Puissant Mazembe.
Je voudrais d'abord remercier le Seigneur et toutes les personnes qui ont prié pour le Tout-Puissant Mazembe. Je n'ai jamais douté dans ma vie. Je n'ai jamais douté. Je savais que la coupe était à nous parce qu'elles ont travaillé et j'ai toujours dit impossible n'est pas notre Dieu. Cette coupe va être dédiée aux victimes de la guerre, à nos déplacés internes dans notre pays. Donc c'est un symbole d'amour et d'unité.
Chez les hommes, c'est le début de la compétition demain.
Tout à fait, avec la première journée des matchs de poule. Et le tenant du titre, Al Ahly du Caire, reçoit dans le groupe C les Ivoiriens du stade d'Abidjan. Le second match mettra aux prises les Algériens du CR Belouizdad au Sud-Africain d'Orlando Pirates. Dans la poule B, le second club sud-africain, les Mamelodi Sundowns, jouera les Congolais de Maniema Union. Et on assistera au duel marocain entre les militaires d'Asfar et le Raja de Casablanca. La suite, on aura dans le groupe A, TP Mazembe Mouloudia d'Alger et Young Africans de la Tanzanie, Al Hilal du Soudan. Et puis groupe D, Espérance de Tunis, Joliba de Bamako, puis Pyramide d'Égypte contre Sagrada Esperanza d'Angola.
La première journée des phases de poule également en Coupe de la CAF.
Et on assistera aussi à de belles oppositions après demain mercredi. Dans le groupe A, les Tanzaniens de Simba Sport seront face aux Angolais de Bravos Domaki et les Algériens de Constantine contre les Tunisiens du CS Fassien. Pour le reste, on aura dans la poule B les oppositions Stade Malien Stellenbosch d'Afrique du Sud et Renaissance de Berkane Louda Soul d'Angola. Dans le groupe C, la SEC d'Abidjan Jaraf de Dakar et l'USM Alger Orapa United de Botswana. Et enfin, les deux représentants égyptiens, le tenant du titre Zamalek et Al Masri, affronteront respectivement les Mozambicains de Black Bull et les Nigériens d'Enimba dans la poule D.
On parle à présent du prochain Afrobasket dont les éliminatoires ont lieu à Dakar au Sénégal.
Oui, la deuxième fenêtre des qualifications de cette compétition qui se déroulera en Angola l'an prochain. Troisième journée des matchs hier dimanche et troisième victoire pour le Sénégal, vainqueur du Cameroun 87-83. Les Lions de la Teranga terminent ainsi en tête du groupe A en attendant la dernière phase prévue en février 2025. La RDC prend aussi la première place de la poule C après son succès aux dépens du Soudan du Sud 76-69. On le rappelle, la prochaine fenêtre qui qualifiera les 16 équipes pour cet Afro-Basket aura lieu en février 2025.
Merci Élisée. De nouveau avec vous, Rosine Munezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Un nouveau décret au Bénin précise les modalités d'obtention de la nationalité béninoise par reconnaissance pour les afro-descendants. Le 30 juillet dernier, le pays avait adopté une loi en réponse aux difficultés de quête d'identité à laquelle sont confrontés les afro-descendants. Le Bénin a justifié cette loi par le désir de faciliter la procédure aux descendants des personnes déportées et réduites en esclavage qui souhaitent développer un lien avec la terre de leurs ancêtres sur le continent africain. Quelles sont les modalités et que rapporte cette loi au Bénin? Alexandrine Holognon, adjoint Willy-Andre Rungbeji, porte-parole du gouvernement béninois.
Ce décret, il vient consacrer une évolution dans la démarche du Bénin de permettre aux afro-descendants de renouer avec leur terre ancestrale. Après l'adoption de la loi le 30 juillet 2024, il y avait d'autres actes à poser au plan réglementaire. C'est ce qui justifie donc la prise de ce décret. Et ce décret, il précise comment un afro-descendant peut postuler la nationalité béninoise par reconnaissance selon qu'il se trouve à l'étranger ou selon qu'il est en séjour au Bénin. Parce que vous pouvez être afro-descendant, être de passage au Bénin et profiter pour introduire votre demande. Et quand vous êtes à l'étranger, vous pouvez également le faire. Et dans les deux cas, on dit les pièces que vous pouvez soumettre, comme par exemple la preuve de votre afro-descendance qui peut se faire par un test ADN ou la généalogie, autres documents qu'on peut vous donner. Pour l'instant, ce qui vient d'être fait n'est pas si substantiel. En attendant un prochain acte qui va être posé par le gouvernement, ce sera la mise en place d'une autorité administrative dédiée exclusivement aux questions de nationalité. Et cette autorité maintenant va mettre en pratique les directives du gouvernement pour opérationnaliser cette nationalité par reconnaissance et permettre à tous les afro-descendants qui en manifestent le désir depuis que la loi a été votée de passer maintenant à la phase concrète des demandes, de l'étude des dossiers et de l'attribution du passeport béninois au titre de la nationalité par reconnaissance et ensuite, pourquoi pas, au titre de la nationalité pleine et entière.
Le Bénin justifie cette loi par le désir de faciliter la procédure à ces personnes, mais que rapporte cette loi au Bénin?
Elle rapporte déjà que, historiquement, le Bénin rétablit une certaine équité, une certaine justice au profit de ses descendants d'Africains déportés. Elle rapporte au Bénin que ces Afro-descendants ont à nouveau une attache réelle avec leur terre d'origine. Après, tous ceux qui peuvent visiter le Bénin, qui devient de plus en plus une destination de premier choix. La dernière nouvelle, madame, vous êtes aux États-Unis, vous savez que les groupes spécialisés ont classé le Bénin parmi les 25 meilleures destinations à visiter en 2025, par exemple. Donc, il y a un intérêt mondial qui se crée et nous serons heureux d'accueillir tous ceux qui ont envie de connaître ce bout de terre du monde, ce Bénin qui est un autre pays du continent africain, parce qu'en général, quand on parle de l'Afrique globalement, on en parle avec des mots plutôt négatifs vus de l'autre côté. Mais il y a aussi sur ce continent des pays qui font des progrès, qui font des avancées, qui font des expériences qui méritent que l'on s'y penche sérieusement.
Willy-Andre Rungbeji, porte-parole du gouvernement béninois. Au Cameroun, les autorités, les responsables de cette filière de grande consommation et les associations de consommateurs sont en alerte pour juguler la flambée des prix et la pénurie des produits alimentaires à la veille des fêtes de fin d'année. L'augmentation unilatérale depuis quelques jours des prix de la bière dans les débits de boissons fait grincer les dents, ajoutée au coût élevé du poulet sur le marché. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
Au marché de Sam dans le 3e arrondissement de Yaoundé, Michel vient d'acheter un poulet de moins de 3,5 kg à un prix qu'elle juge très élevé pour une famille de 5 personnes.
J'ai pu acheter, mais vraiment, les prix sont tellement élevés que je ne pense pas qu'on va s'en sortir. Bon, je suis venu avec 2 500, mais je me rends compte que le minimum du poulet, c'est 3 500. C'est-à-dire que 3 500 en montant. De jour en jour, ça augmente.
Des prix élevés qui ne font pas non plus l'affaire des vendeuses comme Asta, qui depuis 6 heures sur la place du marché peine à écouler moins de 10 poulets. à cette attente d'expliquer cette flambée du prix du poulet.
On me laisse le poussin 650, les Allemands c'est 21 000. Sur les 650, tu passes les Allemands. On dit que les Allemands, le maïs est cher, n'est plus le maïs au nord. Maintenant, comme n'est pas le maïs au nord, on va faire comment pour élever les 7 poulets-là. Nous-mêmes, on donne 7 poulets aux gens comme ça, que voici 4 500. Ça dérange nous vraiment parce que les durs sont durs.
L'interprofession avicole a alerté le gouvernement sur la pénurie du maïs depuis le 15 juillet dernier. Le maïs produit localement entre à 50% dans la nutrition de la volaille. Au cours d'une consultation avec le ministre du Commerce, Jean-Marie Quémenier, secrétaire permanent de l'interprofession avicole, a indiqué que la filière se porte mal.
Le pic de 2016 de 71 millions de têtes de poulet qui équivalait à 44 000 tonnes de viande de poulet, aujourd'hui nous en sommes pratiquement à la moitié. C'est la production, par exemple, de poussins d'un jour, qui est l'intrant principal pour l'éleveur qui produit le poulet plus cher. En 2016, nous produisions 900 000 poussins semaine. Aujourd'hui, nous en sommes loin. À peu près 400 000 poussins semaine en 2024.
Si les prix d'autres produits de grande consommation flambent, les fêtes de fin d'année pourraient être difficiles pour de nombreux Camerounais. Prince Pondo, président de la coalition de consommateurs camerounais, tire la sonnette d'alarme.
Si nous ne mettons pas sur pied des politiques incisives de production pour booster la production locale, nous allons nous retrouver face à une situation d'insécurité alimentaire dans notre pays. Le gouvernement doit également mettre sur pied des équipes de contrôle pour s'assurer que le produit est disponible, qu'il est de qualité et qu'il est accessible en termes de prix. Les opérateurs économiques doivent faire preuve d'un patriotisme.
Le gouvernement a prescrit la stabilité des prix aux acteurs de cette filière de produits de grande consommation et annoncé des mesures préventives contre les spéculations à l'approche des fêtes de fin d'année. Reste qu'une cacophonie persiste dans la filière brassicole. Les prix des bières ont connu une hausse de 50 francs CFA sans l'aval du ministère du Commerce. Les tenants des débits de boissons pointent le doigt accusateur sur la multinationale Boissons du Cameroun. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Au Gabon, les efforts de protection des éléphants de forêt sont de plus en plus contestés par les habitants des zones où la population croissante du mammifère crée des conflits. À Bakoussou, par exemple, malgré les clôtures électriques, les pachydermes continuent de créer des dégâts sur les terres agricoles et menacent les populations locales. Les détails avec Thierry Kaoré.
Estimé à environ 95 000 spécimens face à une population de 2 millions d'habitants, les éléphants rayent en maître dans les villages, obligeant les habitants à redoubler d'efforts pour se protéger et protéger leurs exploitations. C'est un problème national, nous dit William Mukanja, chef d'une brigade spécialisée.
Dans toutes les 9 provinces du Gabon, on retrouve le conflit. On recense les dévastations sur l'échelle nationale, du nord comme au sud et d'est en ouest.
Un autre habitant du village de Bakoussou, Freddy Mayomo, raconte son expérience.
Ça, c'est ma plantation. Donc, ils avaient cassé la barrière, c'était en bas là-bas. Donc, c'est ça la porte. Quand on sort, on ferme comme ça là. Pour le moment, ça nous aide. Les éléphants, ils sont maintenant éloignés. Ça nous aide maintenant pour le moment. Mais c'est des fois, il y a des moments, des fois, quand ils décident, quand il vient tout un troupeau, c'est comme s'il peut casser ça et il rentre.
Le danger se vit également sur les routes, car une rencontre avec ces pachydermes peut s'avérer dangereuse. La population veut alors se défendre avec des méthodes radicales, comme le dit Kevin Balondo-Boka, un habitant de Bakoussou.
La solution des éléphants, là, pour les dégager, les pachydermes, là, c'est les abattre. C'est pas les barrières, là, c'est faux.
Mathias Mapio souhaite plus de considération de la part des dirigeants.
Moi, je ne sais pas qu'est-ce que les hommes du gouvernement ils protègent, si c'est l'être humain ou si c'est la bête. Je ne sais pas à quoi l'éléphant leur rapporte. C'est ça là la chose qu'il faut un peu nous expliquer. Qu'est-ce que l'éléphant fait pour les hommes de l'État par rapport aux êtres humains?
Début décembre 2023, 3 mois après son coup d'État, le président de transition, le général Brice Olingi Nguema, avait pris ouvertement position, appelant à abattre les éléphants jugés trop dangereux. Jérémy Mapangou est un juriste.
Et lorsque le président avait dit « abattez-les », il faisait allusion à la légitime défense.
C'est vrai que le message est un peu passé comme ça, ça a été fort auprès des populations, mais il s'agissait bel et bien de la légitime défense.
La chasse et la capture des éléphants sont interdites et passibles de prison au Gabon et le trafic d'ivoire sévèrement réprimé. Mais les abattre est autorisé en cas de légitime défense. Il faut alors informer l'administration, avoir une arme en règle, établir un constat après la mort de l'animal et remettre les ivoires à l'État. Grâce à ces politiques strictes de conservation, le Gabon, couvert à 88% de forêt, est devenu le pays refuge des éléphants de forêt.
Des passeports numériques aux applications qui annoncent les alertes aériennes ou permettent aux conscrits de mettre à jour leurs informations dans le registre de conscription. L'Ukraine est aujourd'hui un leader mondial dans le domaine de la numérisation des services gouvernementaux. De Kiev, Lesia Bakalet explique comment l'invasion de la Russie a encouragé l'Ukraine à numériser ses services. Récit Alexandrine Holognon.
En seulement 6 ans, l'Ukraine est passée de la 102e à la 5e place parmi les 193 pays du monde, dans la catégorie de l'indice des services en ligne, dans l'enquête des Nations Unies sur l'administration en ligne. Valeria Char est directrice adjointe du département de développement des services électroniques au ministère ukrainien de la transformation numérique.
L'Ukraine ne peut pas s'évaluer elle-même. Seuls les experts d'autres pays le peuvent. Nous sommes très heureux d'avoir obtenu la 5e place. Pendant plusieurs années consécutives, l'Ukraine a été à la fin du classement.
Valeria Char attribue la volonté de l'Ukraine de numériser les services gouvernementaux à une application mobile et à un portail appelé DIA, qui signifie « action » en ukrainien.
Il suffit aux Ukrainiens d'avoir l'application DIA sur leur smartphone et tous les documents sont disponibles en ligne, de sorte qu'ils peuvent les présenter à n'importe quel organisme d'État.
Les Ukrainiens peuvent enregistrer une entreprise ou même se marier en ligne grâce à DIA.
Avec la guerre, les personnes déplacées peuvent s'inscrire auprès de DIA et recevoir une aide financière. Il existe également un programme de restauration des biens endommagés par les hostilités.
La guerre a également entraîné le développement d'applications comme Air Alarm. Valentine Richenko est responsable du marketing chez Ajax System.
L'application notifie en temps réel les dangers éventuels des missiles, d'armes chimiques ou nucléaires dans une région donnée.
Ajax Systems, une société spécialisée dans les systèmes de sécurité, est l'un des développeurs de l'application. Auparavant, les habitants se fiaient aux sirènes de rue activées depuis des endroits cachés après avoir reçu des alertes de l'armée de l'air.
Un agent de service active les alarmes des rues mécaniquement en appuyant sur les boutons. Nous avons donc développé un programme qui permet à une personne en service d'activer l'alarme à l'aide d'une application.
Il y a environ 24 millions de téléchargements d'applications, indique Richenko.
Dans le monde, il n'existe pas de solution similaire pour autant de personnes. Avant l'invasion massive, c'est en Israël que l'on trouvait l'application la plus célèbre avec alarme aérienne et la carte des abris. Mais l'échelle est différente.
De nouvelles applications ont également aidé l'armée ukrainienne à rationaliser une grande partie de sa paperasserie administrative. Katerina Chinorotchenko est vice-ministre de la Défense de l'Ukraine pour le développement numérique.
L'application Réserve Plus est le produit le plus populaire du ministère de la Défense. L'objectif est simple, mettre en ligne tous les services de nos centres de recrutement et de nos bureaux d'enrôlement.
Les hommes en âge de circonscription peuvent désormais utiliser une application pour mettre à jour leurs données, comme l'exige la loi.
En outre, nous avons récemment lancé la possibilité de choisir des postes vacants dans l'application et de rejoindre volontairement les rangs de toutes les forces de défense.
Katerina Chernorohenko affirme que toutes les données sont bien protégées. Elle ajoute que la guerre a créé des conditions qui ont rendu plus urgent le développement de nouveaux produits numériques, un défi que l'Ukraine a dû relever tout en étant sous le feu de l'ennemi.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Rosine Munezero. À la mise en onde, Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.